Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos séjours périlleux dans l'enfer de la Sharkspotation, où barbotent des requins toujours plus agressifs. On s'approche tranquillement de la 50e émission, c'est-à-dire des 100 films traités. Et pourtant, la boîte à requins ne désemplit pas parce qu'au fur et à mesure que je les traite, eh ben, y en a plein d'autres qui arrivent. Le requin n'a jamais été autant à la mode, c'est dingue. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous mes auditeurs et notamment à tous ceux qui m'envoient des films parce que y a quelques raretés qui sont difficiles à analyser, difficiles à trouver et heureusement que je vous ai pour dénicher certaines pièces. Donc je remercie ici officiellement et je m'excuse d'avance si j'en oublie, Célia, Compte Inactif, Mangé par un hibou. Je sais, sur les pseudos Twitter, vous êtes souvent très très fort. W6 aussi pour ses dessins qui sont toujours très très classe. Et là, particulièrement pour l'émission, je vais remercier Doumé, notre patron national sur Nanarland, qui non seulement m'envoie des images de posters ghanéens, des dents de la mer complètement frappadingues, mais en plus qui m'a procuré la version française de Shark's Paradise que nous allons traiter aujourd'hui. Grand merci à lui et bisous à tous mes auditeurs fidèles qui viennent barboter avec moi au milieu des requins. Alors, je vous rappelle rapidement le principe de Shark Parade au cas où vous découvrirez l'émission. Nous avons tiré au sort deux films. Nous allons les analyser avec rigueur pédagogique pour en tirer les qualités cinématographiques et squalesques, c'est-à-dire squalographiques, qui sont l'originalité, l'histoire, les personnages, la réalisation, l'ambiance, la qualité des requins, leur attribuer de 0 à 3 points selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis. Cela nous donne un total de 18 auxquels nous rajouterons éventuellement de 0 à 2 points d'appréciation personnelle pour reclasser dans une des 5 catégories suivantes. Au-dessus de 16, un incontournable, au-dessus de 12, un bon film, au-dessus de 8, un film routinier, au-dessus de 4, on est dans un film nul, et en dessous de 4, on est dans un film à fuir. Donc les deux films que nous allons traiter aujourd'hui sont Shark's Paradise, un film australien de 1986 de Michael Jenkins, et Sharknado 5 Global Swarming d'Anthony Seferante en 2017, ce qui nous permettra de clôturer enfin cette saga interminable. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
Paradis des requins.
Imaginez ce qui pourrait se passer si une espèce de fou parvenait à découvrir le moyen de faire réagir ces monstres particulièrement redoutables.
Paradis des requins. Paradis des requins.
Choisissez une carte. Tous les produits chimiques sont identifiés par des codes.
Tirez !
Paradis des requins, pourquoi vous en dire plus ? Voyez ce film, on n'a pas fini d'en parler.
Cap sur l'Australie des années 80, et plus particulièrement la région de Brisbane, la Gold Coast, le paradis des surfeurs. un paradis des surfeurs frappé par de mystérieuses attaques de requins, d'autant plus mystérieuses qu'un maître chanteur contacte les autorités pour les revendiquer. Ce n'est que le début. Il peut contrôler les squales et ne cessera ses attaques que contre 2 millions de dollars.
On a investi plus d'un million de dollars dans cette ville.
Je sais.
Et on peut espérer quand même que tout ce qu'on a investi dans cette région soit protégé.
Mais nous n'avons aucune preuve qu'il y ait un trou dans les filets.
Mais qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve? Combien de morts il vous faut?
J'ai déjà ordonné une enquête.
Dans 7 jours, monsieur le maire, dans 7 jours, il y aura l'ouverture du carnaval de la côte. Et ça, vous
le
savez. Et ça signifie le début de la saison.
Ne dramatisez pas trop. Un seul requin a attaqué.
Mais c'est largement suffisant. Si vous ne pouvez pas garantir la sécurité de nos plages, vous ne verrez pas un touriste dépenser son argent
monsieur
dans cette ville.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ça vient d'arriver pour vous, monsieur.
Oh, plus tard.
Je crois bien que vous devriez l'écouter.
Très bien, passez-la.
Le requin a tué hier soir au paradis des surfeurs. C'est moi qui ai envoyé ce requin. Je peux en envoyer un autre ou des centaines d'autres. Je peux choisir l'heure, je peux choisir le lieu. Si vous prévenez la police, je le saurai. Le prix est de 2 millions de dollars. Vous avez une semaine.
Après un temps d'incrédulité et de tergiversation, les autorités doivent se rendre à l'évidence. Face à une telle menace, il faut une équipe de détectives discrets, intelligents, trop stylés, pour stopper le génie du mal. Et donc, ils montent une petite équipe composée d'un flic blondinet tête brûlée qui s'est fait la coiffure de Sting dans Dune, d'un ex-agent de la CIA afro-américain à la cool un peu magouilleur sur les bords, et une jolie voleuse spécialisée dans le déguisement et le dépouillement d'hommes d'affaires un peu trop crédules. Un trio mal accordé au départ, mais qui va savoir unir ses forces pour découvrir ce qui se cache derrière ce sombre complot. Alors, on n'avait pas trop été en Australie à part The Reef, dans notre balade squalesque, et nous voici devant une petite curiosité, puisqu'il s'agit moins d'un film d'attaque de requins que d'un petit polar à la cool, fortement sous influence de deux flics à Miami. Ceux qui me connaissent un peu savent d'ailleurs que je voue un amour immodéré à cette série de mon enfance, et que si je m'appelle Rico, c'est non seulement parce que mon vrai prénom est Richard, mais aussi en hommage à mon perso préféré de la série, le trop cool Ricardo Tubbs, incarné par Philip Michael Thomas, dont la photo est mon avatar sur Nanarland. Ah oui, le film part avec un sacré atout sympathie tant il respire et hurle les années 80 dès sa jaquette. Les fringues, les coupes de cheveux, les flics à la cool échappés de l'arme fatale qui échange punchline sur punchline, entre deux poursuites en voiture et flingage d'homme de main patibulaire. Et parce qu'on est là dans un produit certes calibré en diable, mais qui bénéficie clairement de la patine et du charme de son époque. Tourné pour la télévision, ce film a tout du pilote de série télé qui n'a pas dépassé le premier épisode, et s'avère, pour peu qu'on soit un peu nostalgique de cette époque, assez sympathique. Sympathique certes, mais parfaitement crétin dans son développement. Parce que quand t'as une menace mortelle sur la ville, tu vas pas recruter un flic incontrôlable et deux escrocs notoires pour régler le problème. Mais bon, comme pendant tout le film, la police et les autorités ne cessent de se tirer dans les pattes, on n'est plus à ça près. L'enquête, elle est censée être discrète. Le dingo requin, il a prévenu, hein, si vous enquêtez, j'augmente la dose et je lâche les requins. Sauf que pour nos détectives d'élite, mener une enquête, ça veut dire écumer les boîtes de nuit à la mode, provoquer des bagarres pour faire diversion pendant qu'on cambriole sans mandat les bureaux les plus dangereux criminels de la ville, pour éventuellement trouver un indice, et puis se faire griller au bout de 2 minutes. En fait, tout ça n'est qu'un prétexte pour aligner les gunfights, les poursuites en bagnole, les scènes de bagarre avec des gros bras pittoresques, ou de comédie avec d'autres flics ridicules. Tout idiot qu'il soit, le film ne peut pas lui enlever une certaine générosité dans l'action, pas trop de temps mort. Ajoutez à ça une bande-son composée de toute la scène requin des australiennes de l'époque, une excess en tête, et on a un produit sans génie certes, mais pas déplaisant.
Est-ce que vous avez une explication?
Madame Axelmer, voilà, je travaille pour le service de la
marine. Pas du tout, vous êtes un voleur. Vous vouliez forcer la porte de ma cabine. Qu'est-ce que vous espériez y trouver? Mes bijoux? Ou moi?
Je crois qu'il y a un malentendu.
Ah, oui. Si je crie au viol, le quai fourmira de policiers aux mines patibulaires.
Est-ce que je peux crier, moi aussi?
Par contre, côté requin, bah c'est là que le bas blesse, hein, c'est un peu la disette. Il y a bien une ou deux attaques, mais globalement, c'est pas un film du style Sharksploitation. C'est un polar. Le requin n'est qu'un moyen criminel, rien de plus. Donc on a 2-3 images de requins, furtives, issues de documentaires animaliers, un nageur qui coule dans une gerbe de sang, et puis basta. Donc, a-t-il sa place sur Shark Parade? On va limite, hein, mais bon, on va le considérer, puisque malgré tout, le requin est l'arme du crime. On est plus sur un petit pas d'action clinquant qui lorgne sur d'autres productions de la même époque, avec ses héros trop coolos en usage de la violence, toujours borderline et sympa, qui s'envoient des vannes tout en enquêtant comme des bourrins, des méchants très méchants, des autorités clownesques régulièrement ridiculisées. C'est la principale limite ici, et c'est ce qui, à mon avis, fait que ce film n'est pas resté dans les mémoires. En sortant pas suffisamment du lot, le film n'a pas véritablement eu d'impact ou de postérité. Je me demande même par quel miracle de la vidéo il est arrivé jusqu'à chez nous. Je remarque quand même qu'on essaie de la version française de gommer au maximum l'origine australienne du métrage pour essayer de le faire passer pour un film américain. Bruce Wayne fait un Miami tout à fait acceptable avec palmiers et débauches de néons, de vitrines rutilantes, de jolies filles, mulettes et vestes aux épaulettes cintrées. Alors certes, faut pas y regarder de trop près sur la continuité, sur les faux raccords, sur les incohérences. Comme ce magnifique faux raccord jour-nuit dans la scène où nos héros cambriolent les bureaux des méchants présumés, une héroïne dont la coupe de cheveux change d'un plan à l'autre sans toujours de véritables explications. Bref, on est là sur un produit qui est fait un petit peu vite, mais avec bon cœur. Je suis plutôt client, même si, comme je vous l'ai dit, on n'est pas vraiment le pur film de Sharksploitation. Le petit polar à la cool, dont l'appréciation dépendra grandement du facteur nostalgique des années 80 que vous pouvez avoir.
Monty, si tu dois mourir, j'aimerais mieux que tu crèves en silence.
Non, je suis trop vieux pour ce genre d'exercice.
Je croyais que les agents secrets devaient toujours garder la forme.
Bah écoute, garde ça pour les bandes dessinées, tu veux.
Bonjour. Alors, ton Roméo dans son bocal, il a été intéressant?
C'est une hormone synthétique. C'est sexuel.
Sexuel? Ah, c'est donc ça.
Oui, cela dit, ce n'est pas stable. Au bout de 3 jours, ça n'a plus d'effet. Il faut donc ravitailler sans arrêt. Si on veut attirer des dizaines de requins, il faut des centaines de litres de ce produit.
Bon, alors, faut chercher une usine chimique, c'est facile. Et je n'en connais qu'une seule dans le coin, c'est Schaeffer's.
Et tu veux y aller?
Non, non, je vais remettre un peu de pression sur Murphy.
Fais pas n'importe quoi.
Et moi, j'ai travaillé ma musique au tropique.
Ah, d'accord. Faites pas de dessin, je suis bonne pour potasser ma chimie.
Alors, quelles sont les qualités scolographiques de Shark's Paradise? Eh bien, l'originalité, elle est insuffisamment acquise en dehors de son concept d'extorquer de l'argent contre des attaques de requins. Eh bien, le film copie en fait le fond et la forme de tout ce qui se faisait en film d'action musclé des années 80. L'histoire est à l'avenant, insuffisamment acquise aussi, puisqu'il s'agit essentiellement d'une enquête menée façon gros sabots. On va voir les méchants, on les secoue un peu, et alors qu'on est censé enquêter discrètement, on se retrouve très vite avec des tueurs aux trousses, tout en essayant de démêler l'affaire. Bon, alors les péripéties, elles sont cousues de fil blanc, les méchants, ils sont repérés des kilomètres à l'avance, y a pas vraiment de surprise. Les persos sont en cours d'acquisition, ils sont sympas, ça cabotine beaucoup. Alors, si David Rains, le héros beau gosse, avec sa coiffure, façon Sting dans Dune, ou Vegeta dans Dragon Ball, est un Sonic Rocket du pauvre, les autres s'en sortent un petit peu mieux. Sally Taylor, elle est pas mal en arnaqueuse de charme, et surtout, Rob Banks, wannabe Ricardo Tubbs, a la cool attitude, balançant nonchalamment des petites vannes. Il a d'ailleurs fait une assez bonne carrière dans la série B à Z, et continue toujours à tourner gaillardement des productions fauchées à Las Vegas. L'ambiance, elle est en cours d'acquisition, le film bouge bien, on peut pas lui reprocher. Ça, c'est un film qui sait ce qu'il veut, c'est-à-dire faire une scène d'action toutes les 10 minutes. Ah oui, comme le film en plus est assez court, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer, ça va à l'essentiel, ça le fait de façon à peu près honnête. La réalisation, elle est insuffisamment acquise. Michael Jenkins, le réalisateur, filme un peu à la papa, faut dire qu'il est dans le métier depuis 1967 et qu'il n'a tourné quasiment que des séries télé. Donc ça se sent dans le rythme, ça se sent dans la forme, ça se sent même dans le découpage qui inclut les coupures pub. Il est d'ailleurs toujours actif puisqu'il a des séries sur le feu, en ce moment à la télé australienne. Ça conserve le téléfilm. Les requins, enfin, eh ben, ils sont non acquis, parce qu'on les voit très très peu, donc comme je vous ai dit, quelques petites images de documentaire, une ou deux attaques furtives comme on en a vu 100 000, et puis, ben, c'est pas vraiment un film de requins, voilà, c'est un film avec des requins, c'est un film dont l'arme du crime est un requin. Alors au final, ça nous fait 7, mais comme partiellement par nostalgie, j'ai passé un pas mauvais moment devant, eh bien je vais lui rajouter son petit point pour qu'il arrive à 8. Voilà un film routinier, pas foncièrement honteux, mais qui n'est pas non plus franchement inoubliable, ce qui explique d'ailleurs qu'il a été largement oublié. Ça aurait pu prendre plus si ça avait été le podcast Flic à la cool parade. Mais non, là c'est Shark Parade. Et donc en parlant de requins, de beaucoup de requins, de beaucoup trop de requins, eh bien nous allons aborder notre deuxième film, Sharknado 5 Global Swarmy, qui va encore nous prouver que c'est pas la quantité des attaques de requins qui en fait la qualité. 2017. A world divided. With only one thing
that can unite us all. No, not that.
Sharks. Why is it always gotta be sharks?
Yep, we're making America bait again.
This could be the last curtain call. Not just for America, but for the world.
That's right. This time, it's going global.
I have a bad feeling about this.
They're bigger, stronger, stranger.
Throw another shark on the barbie, eh?
This summer, the phenomenon that swept the country 4 times before is now taking the world by storm, literally.
Go!
That is messed up.
It's the next chapter of the franchise that's been hailed as gloriously idiotic and absolutely pointless.
It's a submarine-nado!
Oh my God, I just killed Bret Michaels!
Well, everyone's replaceable.
The hunter becomes the hunted!
Oh, the humanity.
Sharknado 5, Global Swarming.
That's a huge shark.
That's no shark.
That is Sharkzilla.
Le 5e épisode de la saga Sharknado. Youpi, joie, félicité, liesse dans la foule. Non. Franchement, ce coup-ci, il est temps que ça se termine. Vu que c'est le 6e qu'on traite et que c'est rigoureusement la même chose que les autres. Je commence franchement à être un peu à sec en matière de choses à vous dire sur ce film. Jusqu'au 3, ça tenait encore à peu près la route. Mais comme dans celui-là, ils avaient déjà poussé les potards beaucoup trop loin en envoyant films dans l'espace, ben après, il leur restait plus qu'à étirer le concept en variant les lieux ou les guests. Après avoir saccagé tous les lieux emblématiques des États-Unis dans le 4, et avant les voyages dans le temps du 6, eh bien, le 5 se lance dans un tour du monde, pour dévaster et faire tomber les requins sur la plupart des lieux touristiques mondiaux. Londres, Tokyo, Sydney, Rome, Rio, les montagnes suisses, le film se contente de sauter d'un lieu à l'autre sans jamais chercher à justifier quoi que ce soit. On connaissait le « ta gueule c'est magique », là c'est « ta gueule c'est Sharknado ». Ian Ziering et Tara Reid, alias Finn et April, se rendent en Angleterre à la demande du gouvernement de Sa Majesté et de l'OTAN pour anticiper l'arrivée prochaine d'un nouvel ouragan de requins. Parallèlement, ils vont à Stonehenge pour essayer de découvrir un artefact mystique qui prouverait que les Sharknado existent depuis l'aube de l'humanité, mais qu'en plus, les humains avaient réussi à les contrôler grâce justement à cet artefact.
Ces tornades ont déjà eu lieu.
Sur toute la planète. Mais regarde bien, non seulement l'humanité s'est battue contre les Sharknado, mais elle les a vaincus.
Comment ?
On appelle ça l'armure de Dakuaka.
La quoi ?
Le dieu requin.
Ah, bien sûr, le dieu requin.
Les druides utilisaient l'armure contre les Sharknado, et d'après cette carte, elle devrait être cachée quelque part dans cette grotte.
T'es venu la récupérer ?
Non. On est venu la récupérer. On se bat contre eux depuis le début. On va pas s'arrêter là.
Hélas, une nouvelle tempête de requins jaillit de nulle part et engloutit leur fils, qui se retrouve projeté dans les airs, et coincé au milieu de la tempête. Finn et April, n'écoutant que leur courage, vont essayer de le retrouver et passer de portail dimensionnel en portail dimensionnel, de lieu en lieu, pour essayer de le retrouver, sans évidemment la moindre justification scénaristique à ces déplacements hasardeux. Là, clairement, ils s'en foutent. Le 4 volait déjà pas haut, mais essayait de garder un semblant de ligne narrative. Le 6, au moins, il essaie de raccrocher les wagons pour essayer d'apporter un brin de cohérence à la saga. L'anacache, hein, les scènes se succèdent sans jamais essayer d'avoir autre chose que des gags à base de requins. On est à Tokyo, bon bah pof, on a un Sharkzilla composé d'une masse de requins qui forme un squat géant. On est à Sydney, bon bah on transforme l'opéra en base anti-requin qui tire des lasers. Tout est comme ça. Construit à la mare à bout de ficelle, selon les inspirations qui leur viennent selon les lieux. Et quand les références exotiques ne suffisent plus, ben c'est accompagné de scènes parodiant d'autres succès du cinéma, de James Bond à Retour vers le futur. Ainsi, toute l'introduction est un pastiche de la scène d'ouverture des Aventuriers de l'Arche Perdue. Police de caractère du générique compris pour s'emparer du mystérieux artefact qui permettrait de contrôler les Sharknado, en remplaçant tous les pièges de l'original par les mêmes, mais avec des requins à la place. Voilà, tout est à l'avenant. La frénésie remplaçant la construction scénaristique, on empile les micro-scènes d'un pays à l'autre, d'un caméo à l'autre, qui dépasse rarement 3 minutes. Le truc qui a été prévu pour faire des vidéos virales sur YouTube. Et encore, on est en 2017, donc c'est pas encore des vidéos TikTok. Une scène post-apocalyptique avec Dolph Lundgren qui passe une tête, et Rick Roberts qui arrive avec un dirigeable steampunk sans raison, pourquoi pas, de toute façon, il meurt dans une minute plus tard. L'équipe habituelle rempile en pilote automatique, hein, Anthony Sefferant à la réalisation, Thunder Levin au scénar, Chris Redenauer et Chris Cano à la musique, et tout le monde déroule du déjà-vu au kilomètre.
Vous avez un sacré budget, dis donc.
Nous non, notre organisation est une société secrète. Notre secte compte des présidents, des médecins et même une stripteaseuse.
Je t'ai entendu.
Vous travaillez avec le gouvernement, l'armée ?
Non, pas du tout. Nous, on sert à quelque chose.
Et ça, c'est quoi ?
Un système qui localise les sœurs Sharknado dans le monde entier. Et là, je dois prévenir mon contact en Chine. Ne m'en veux pas ?
Pourquoi je t'en voudrais ? T'as recruté ma cousine ? Vous êtes une secte.
Quand Gemini était à Las Vegas et moi à Paris, ce n'était pas une coïncidence. Elle est dans l'organisation.
C'est tourné partiellement en Bulgarie, où Zyazilom, tel New Image en son temps, délocalise de plus en plus ses productions, qui doivent avoir un look européen. Quitte à ce qu'au détour d'une scène, à Rio, par exemple, pied de la neige dans la rue. Oh, allez rebattre. Je vous ferai grâce des caméos qui sont juste là pour balancer une réplique et se faire bouffer, de Nichelle Nichols de Star Trek au catcheur John Morrison, en passant par le skater Tony Hawk, Olivia Newton-John ou la chanteuse Samantha Fox. Mon préféré restant quand même le pape, interprété par le mannequin Fabio, bellâtre qui a connu le succès en étant le beau mec torse nu sur les couvertures des livres de la collection Harlequin. Bon, évidemment, personne n'est dirigé, la plupart de ces caméos, c'est d'illustres inconnus, des présentateurs télé, des stars de rock de 60 ans sur le retour botoxé, des entertainers de Las Vegas maquillés comme des voitures volées. Au passage, parmi les invités, le temps d'une micro-scène, il y a les youtubeurs Natou et Kemar, qui sont présents, qui commentent l'action. Voilà, je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez. Et puis le scénar c'est pas mieux, il y a des prophéties, de la sorcellerie, un artefact magique, mais au fond ça sert à rien, on s'en fout et on les oublie en cours de route. Il y a un homme en noir, une conspiration gouvernementale, mais pareil, le gars se fait bouffer par un requin, on en parlera plus. Le seul truc qui pourrait sauver un peu le film, c'est que ça bouge tout le temps. La plupart du temps pour ne rien dire, comme un ado sous crack ou Nicolas Sarkozy. Or j'aurais du mal à déterminer si c'est plus mauvais que le 4, il est en règle générale préféré au 4, moi j'ai trouvé que c'est à peu près la même chose. On est dans le nadir de la série, au fond du trou de l'exploitation cynique. C'est jamais sincère, on sent que tout le monde a passé la phase du « Ouais, c'est rigolo, on se marre à faire des conneries. » Ah ouais, c'est le cinquième, c'est celui de l'année 2017. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a déjà à peu près tout épuisé. Alors, il y a 3 millions de dollars au budget, ce qui est un petit peu le haut du panier de ce que Zyazilom fait. En règle générale, il plafonne à 1 million de dollars maximum. Donc, par rapport aux autres productions Zyazilom, ça a un peu plus de tenue visuelle. D'autant qu'on peut pas enlever à Anthony Sefferante un certain savoir-faire maintenant rodé à ce genre de production. Mais bon, globalement, ce film, c'est un peu à l'image de son casting féminin, particulièrement gavé de botox et d'implants mammaires, c'est complètement trafiqué pour nous faire croire qu'on est encore un peu frais, alors que ça ne l'est plus et que tout le monde en est pleinement conscient. Il est temps de piller les gaules et d'en terminer avec cette saga des enfers, et j'ai pas terminé par le meilleur numéro, en attendant évidemment le reboot, parce que je suis à peu près certain que dans les 5 à 10 ans qui viennent, on va avoir le reboot à 200 millions de dollars avec The Rock ou Ryan Reynolds. Ce serait dommage de laisser perdre un concept pareil.
Tu vois ce que je vois ?
Oh, que oui.
Alors, c'est vous le grand chasseur de requins. Je vous voyais plus grand, plus costaud.
Pardonnez-moi, mon père, car j'ai pêché le requin.
Alors, les qualités scolographiques de Sharknado 5 Global Swarming, c'est le titre. Originalité non acquis, il n'y aura plus rien de neuf dans les péripéties. C'est juste des choses qu'on a déjà vues, avec de légères variantes, parce qu'on va utiliser le Christ du Corcovado à la place de la Statue de la Liberté, ou parce qu'on va utiliser le Forum de Rome à la place d'un casino à Las Vegas. Mais globalement, c'est toujours la même chose, ce qui fait que l'histoire elle aussi est non acquise, hein, y en a pas. Un agrégat de scènes, les lignes narratives partent dans tous les sens et ne sont jamais bouclées, c'est ni fait ni à faire. L'interprétation est insuffisamment acquise. Alors, il n'y a que Yann Zering qui tient clairement la route et qui garde un semblant de professionnalisme tout au long de la saga. On sent le gars qui, de toute façon, savait que sa carrière était au fond du trou et qui, voyant qu'il a un peu de succès sur surprise avec cette série, eh ben, au moins, fait le taf. Et est un héros parfaitement acceptable. On peut en dire nettement moins Tara Reid, qui joue comme une savate, hein, comme le reste du cast, non professionnel pour la plupart, ou simplement des guests et des invités. Bon, ça joue mal, mais ça s'en fout globalement de jouer mal. L'ambiance, elle est insuffisamment acquise. Ça reste rythmé, mais c'est comme agiter des clés devant un chat. Ce qu'on risque surtout, c'est l'épilepsie, tant il se passe des choses dans tous les sens. Mais, paradoxalement, on suit plus rien, parce que plus rien n'a de sens. Réalisation en cours d'acquisition, comme vous le disiez, Anthony Seferante, il a acquis maintenant un certain savoir-faire. C'est d'ailleurs amusant de voir à quel point il est indissociable avec Thunder Levin de cette série Sharknado, à la fois certes avec un certain opportunisme commercial, il n'y a qu'à voir la façon dont il exploite des comics Sharknado, dont il réutilise assez régulièrement le matériel pour sa propre promotion, alors que maintenant il tourne essentiellement des téléfilms de Noël et puis des petits thrillers à bon marché. Mais d'un autre côté, c'est probablement ce qu'il va laisser au monde. Et quoi qu'on en dise, et selon on regarde un petit peu tous les témoignages que l'on a sur la série, tout le monde a eu l'air quand même de bien s'amuser sur cette série de 6 films. Alors au moins, c'est quand même quelque chose qu'on peut un petit peu noter. Les requins enfin, eh bien ils sont en cours d'acquisition. Il y en a comme d'habitude beaucoup, beaucoup trop, ce qui fait que ils perdent un petit peu de leur impact. Mais bon, comme je vous l'ai déjà souvent dit, ils sont quand même maintenant avec des équipes informatiques qui sont compétentes, et pas mal d'effets maintenant rivalisent avec ce qu'on voit sur des productions beaucoup plus cossues. La démocratisation des effets spéciaux fait que, globalement, on a quand même quelque chose qui tient la route. Alors ce qui nous fait un total de 6, je rajouterai rien, c'est nul. Et il est temps de faire un petit bilan de la saga Sharknado avant de se quitter. Alors, si vous n'avez jamais vu les Sharknado, Vénard, eh bien, par quoi commencer ? Eh bien, je vous dirais que... voyez le premier, qui a la fraîcheur de son concept dans le genre film catastrophe. Le 2, passait clairement dans le ridicule achevé, mais au moins, ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, et là encore, il y avait un véritable enthousiasme. J'aime bien le 3, jusqu'au 3, si on est indulgent, et bien, comme à chaque fois, il y a une gradation dans le débile, et que dans le 3, clairement, ils vont au maximum de ce qu'ils peuvent faire, là, on peut se contenter des 3 premiers, et ça sera déjà largement suffisant, vous aurez vu tout ce qu'il y a à voir. Parce que le 4 et le 5, ce n'est que de la ressucée, ce n'est que de la redite, et une redite pas très imaginative. On varie juste les lieux, on varie juste les attaques. Mais en gros, c'est à peu près toujours la même chose. Le 6, il est pas bien meilleur, mais il a pour lui d'essayer de boucler l'histoire. Et clairement, sa dernière demi-heure, qui est anticlimatique, revient sur tous les personnages et arrive à être presque émouvante dans la façon de revenir sur la saga et de s'auto-célébrer, mais avec aussi la nostalgie de ceux qui vont se quitter. Moi, j'aurais pas trop de nostalgie de quitter la saga Sharknado, c'est comme un pansement qu'on arrache. Je suis quand même content d'avoir fait les 6 et de plus avoir à y revenir. Voilà, 2 films sur lesquels je vais pas m'étendre d'autres mesures, si le premier reste sympathique. Sharknado 5, lui, est quand même une belle fumisterie. En tout cas, voilà qui nous mène à notre 50e émission, à 100 films, et en même temps à fêter les 4 ans de Shark Parade, puisque Shark Parade a été créé en juin 2018, et oui, ça ne rajeunira personne. Et donc revenons vers la boîte à requins pour essayer un petit peu de voir ce que nous allons tirer. Que j'attendais depuis un petit bout de temps. Instinct de survie, The Shallow de Raume Colesera de 2016 avec Blake Lively. Un film qui a une très bonne réputation, puisque c'est une des rares grosses productions de requins que je n'ai jamais vues.
Fais-moi un sourire, les affaires reprennent.
Alors ensuite, le 50e sera Dino Shark, une production Corman de 2010 de Kevin O'Neill. Avec un requin préhistorique, quitte à avoir un numéro 100, autant que ce soit de la qualité. Alors quelques recommandations avant de partir, j'ai participé dernièrement à un podcast de Qu'est-ce qui devient sur les Batman. Je sors de mon champ de compétences squalesque, même si dans le Batman 66 il y a un requin, Batman est un héros que j'aime particulièrement. Le premier épisode devrait être sorti au moment où ce Shark Parade va sortir lui aussi. J'en profite aussi pour vous recommander le podcast Tu l'as vu, ou officie Gravelax, qui participe aussi à Qu'est-ce qui vient, et qui revient sur le cinéma, soit par décennie, soit par genre, en ce moment ils sont dans les films de complot. Voilà, alors je vous renvoie pour la liste, aux listes de Fabien sur Letterboxd XD, ou celle de Sens Critique tenue par Quentin. Pour ma part, où est-ce qu'on peut se retrouver? Alors, je n'utilise pas trop le mail de Sharkpard, le podcast. J'ai eu pas mal de problèmes avec et je n'ai pas pu toujours y aller. Donc, excusez-moi si je ne vous ai pas répondu à vos messages. J'étais dans l'impossibilité de le faire. Donc, si vous voulez me contacter, faites-le plutôt par Twitter, @TheUltimateRico. C'est en règle générale mon seul lien réel avec la civilisation. Voilà, on se retrouve en juin pour un épisode spécial, le 50e, sans film, 4 ans. J'aurais pas cru tenir aussi longtemps et avoir surtout des choses à dire à chaque fois sur ces films, et on est loin d'avoir fini, vu que la boîte à requins prend des allures de tonneau des Danaïdes. Allez, on se retrouve en juin, et en attendant, vous pouvez retourner vous baigner.